小细节。
系统偷偷的。
Radio Vassilia.
Radio Bascule.
Radio Bascule, bonjour.
Radio Bascule.
Alors Radio Bascule, c'est une radio en direct de la Renouée à Jonciou, en direct avec vous sur Radio Vassivia. Alors la Renouée à Jonciou, c'est une maison, un lieu collectif géré par une association qui s'appelle La Bascule, d'où Radio Bascule. Et aujourd'hui dans Radio Bascule, on commence un petit peu en retard, mais on a tout un programme pour vous raconter, pour vous parler en fait de ce qui se passe
à... Ah, l'ordinateur s'est arrêté.
Pour vous parler de ce qui se passe à la Renouée. Et il s'y passe beaucoup de choses en ce moment. Alors la Renouée, ça a ouvert en septembre 2016. Et il y a de plus en plus d'activités, de plus en plus de choses qui s'y passent. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui se passe à la cave. Il y a une brasserie associative, très créative. On ira faire un petit tour. Et là, tout de suite, aujourd'hui, dimanche, avec nous dans la même pièce, on a un studio mobile de Radio Vassivia qui est installé dans l'épicerie de la Renouée. Et il y a avec nous un groupe d'échanges de livres, donc d'échanges de livres jeunesse, pour les 8 à 14 ans, donc ils peuvent venir se retrouver une fois par mois les dimanches à la Renouée. Et en ce moment même, ils sont en train de partager donc leur lecture. Et peut-être qu'on va se pencher vers eux pour avoir une petite présentation de livres en direct.
Alors je passe le micro à Loïc qui va présenter ça.
Et je suis avec Maïwenn, qui a un livre tout blanc et très gros. C'est ça, Maïwenn ?
Oui, c'est Miss Charity, de Marie-Aude Muraille. Et je l'ai trop aimé. C'est l'histoire, en fait, d'une fille. Alors, je ne sais plus, c'est il y a longtemps. C'est en 1880, dans les années 1880, en Angleterre. Et c'est une petite fille d'une famille noble, assez riche. Et en fait, ses parents, ils s'occupent pas trop d'elle. Enfin, ils l'amènent à l'église, mais sinon, elle est tout le temps avec sa bonne. Et du coup, pour pas s'ennuyer tout le temps, pour pas devenir folle, elle est tout le temps enfermée avec sa bonne dans la pièce. Et elle apprend en fait elle recueille des animaux et tout, et elle les soigne. Et après, elle s'intéresse à plein de choses, aux plantes et tout ça. Et à la moisissure et tout, elle adore ça. À chaque fois, elle s'intéresse à des trucs comme ça. Et voilà, et du coup, après, elle n'est pas comme les autres, pas trop comme les autres enfants, comme ses cousines et tout ça. Et voilà, et du coup, il lui arrive des trucs, il y a des aventures, mais il n'y a pas de méchants, etc. C'est juste, c'est sa vie, mais... Et en fait, après, elle devient célèbre parce qu'elle écrit des livres, parce qu'elle a appris à peindre. Elle fait de l'aquarelle, elle écrit des livres et ils se vendent. Et du coup, sa mère, elle est scandalisée parce qu'elle gagne sa vie. Et voilà,
Et pourquoi c'est scandaleux de gagner sa vie ?
Parce qu'eux, ils sont nobles, du coup, ils aiment pas ça, quoi. Parce que du coup, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez d'argent et tout ça.
Du coup, ça explique bien l'Angleterre en 1880. On comprend bien tout ça ?
Ouais, c'est bien, en fait, il y a le monde des riches et le monde des pauvres. Et en fait, Miss Charity, elle connaissait pas du tout les pauvres, etc. Et à la fin, elle le découvre un peu. Parce qu'elle se marie avec un comédien.
Ça se termine toujours comme ça. Et Marie-Aude Muraille, t'as lu d'autres livres d'elle ?
Ouais, j'ai lu d'autres livres. Mais en fait, j'aime bien Marie-Aude Muraille. Il y a quoi d'autre ? Il y a Patte Blanche. Comment ça s'appelle ? J'ai plus un autre livre sur un voleur. La bande à Tristan. Et Voilà.
Alors, qu'est-ce qui t'a plu particulièrement à Miss Charity? Pourquoi tu conseillerais aux gens de le lire?
Parce que c'est bien.
C'est une bonne raison. Donc, c'est Miss Charity de Marie-Aude Muraille. Et c'est aux éditions L'École des loisirs, mais c'est disponible les dimanches matins à La Renouée. Qu'est-ce qui veut nous présenter un livre encore? Arthur.
Alors, moi, j'ai envie de vous présenter Le village du chat vampire. C'est une aventure de deux anciens samouraïs, ça se passe au Japon. Et c'est Zanta et Matsuzo, ça s'appelle Le village du chat vampire, du coup. Et donc, c'est deux samouraïs qui marchent et qui vont voir un ancien maître. Et donc, dans ce village, au début, ils se font attaquer. Et du coup, en fait, il y a une ombre. Il se surnomme le chat vampire. Et il tue des jeunes filles dans le village. Et du coup, bah, y a des rumeurs qui courent et tout ça. Et du coup, bah, c'est une histoire plein de rebondissements et tout ça. Parce que, du coup, y a des combats. Puis, il y a une bande qui est alliée du chat vampire. Parce qu'ils vendent des produits qui disent qu'ils empêchent le chat vampire de tuer les filles. Et du coup, voilà. Du coup, bah, y a plein d'histoires. À la fois, il faut combattre les ex-méchants et à la fois, il faut combattre le chat vampire et tout ça.
Et ça se passe plutôt à une espèce de Moyen-Âge au Japon?
Oui, bah, oui, parce que ça se passe avec, du coup, les samouraïs.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre?
Bah, ce qui m'a plu, c'est que y a des combats et c'est héroïque fantasy parce que c'est un peu fantaisiste. Puis du coup, tu vois, il y a des marchands, il y a plein de choses. Il y a pas que l'histoire de rechercher le chat vampire, il y a aussi plein de petites histoires qui se passent en même temps.
Bah, merci Arthur. Donc c'est Le village du chat vampire de Lesne Namioka. Voilà, aux éditions Jeunesse, édition du Rocher. Et Rose a traversé les piles de livres pour venir nous rejoindre avec un livre tout vert, c'est ça?
Oui. Ça s'appelle Les Chevaliers d'Émeraude, c'est de Anne Robillard. Et c'est l'histoire des deux chevaliers. Et il y a une reine, enfin une... voilà. Il y a une dame qui vient avec un bébé, elle le donne au roi et elle lui dit qu'elle veut qu'il le fasse chevalier, que le bébé, quand il sera grand, ils le font chevalier pour sauver le monde. Après, il y a des personnes qui arrivent, des méchants, avec des dragons, et parce que en fait ils veulent récupérer le bébé, et voilà.
Et ça fait partie des livres à plusieurs tomes ou...
Oui, il y a plein de tomes en fait. Là c'est Les Chevaliers d'Émeraude, et puis après il y a une autre série, c'est la suite, et ça s'appelle Les Héritiers d'Enkidiev.
Donc dans Les Chevaliers d'Émeraude il y a déjà plusieurs tomes, et après il y a une autre série qui fait la suite des Chevaliers d'Émeraude. Allez, il y a de quoi lire alors. Toi, tu as lu que le premier pour le moment?
Oui.
D'accord. Et c'est de, tu m'as dit,
Anne,
quel auteur?
Robillard. C'est d'Anne Robillard.
Eh bien, merci beaucoup, Rose. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent présenter un livre? Ah oui, Maïwenn, à nouveau. Alors, Maïwenn, qu'est-ce que tu nous présentes?
En fait, c'est un petit livre qui s'appelle Les chemins secrets de la liberté, qui est écrit par Barbara Smooker. Et en fait, c'est l'histoire des esclaves noirs en Amérique. C'est en Amérique, c'est au sud de l'Amérique, mais pas en Amérique du Sud, au sud des États-Unis. Et en fait, c'est l'histoire des deux filles dans une plantation. Et au début, elles sont dans une plantation où le gars, le dirigeant, les traite assez bien. Puis après, elles s'en vont dans une autre où il les fait travailler énormément à prendre le coton et tout. Et du coup, bah, elles sont, voilà. Et en fait, il y a le Canada, c'est le pays de la liberté, ils disent, parce que là, il n'y a plus d'esclaves. Et du coup, elles voudraient y aller, mais elles peuvent pas et tout, toutes seules. Et il y a la mère de Lily, c'est une des filles qui est
qui est partie, en fait, qui a été séparée de sa fille. Et elles espèrent qu'elle a pu rejoindre le Canada. Et en fait, un jour, il y a quelqu'un qui arrive dans la plantation. Et en fait, c'est un noir qui fait partie d'un truc qui s'appelle les chemins secrets de la liberté. C'est comme un train, enfin c'est comme un des routes de train. Et en fait, il y a des gens qui sont placés à plusieurs endroits dans des maisons. Et en fait, ils accueillent les esclaves en fuite et ils les hébergent et tout. Et ils les font passer par des bateaux, enfin ils ont plein de moyens où ils leur disent les chemins à prendre et tout. Et à chaque fois, ils sont recueillis dans des endroits, mais ils échappent parce qu'il y a plein de... Il y a tous les autres, plein de personnes qui les recherchent parce que c'est des esclaves en fuite. Et là, ils essaient de rejoindre le Canada. Et il y en a qui se font tuer et tout, mais bon, après, ça va, à la fin, ça va.
Ça se termine bien, mais on raconte pas trop la fin quand même. Oui. Est-ce que tu peux nous redire l'auteur et le titre ?
C'est Les chemins secrets de la liberté de Barbara Spooker.
Merci, Maïwenn. Moi, je voulais juste vous parler d'un livre que j'ai lu avec Arthur tous les soirs, un livre complètement loufoque qui s'appelle Tchon Tchon Bleu. C'est impossible de raconter l'histoire parce que c'est complètement un espèce de road movie en Chine. Tchon Tchon Bleu, c'est un paisible paysan chinois qui a un poisson qui s'appelle Bleu, un chien qui s'appelle Orangeux et un chat qui s'appelle je sais plus comment, Petit Bleu, me dit Maïwenn. Et un jour, il neige sur sa plantation d'orangers et du coup, il découvre qu'il peut faire de la glace à l'orange. Il va aller les vendre en ville et là, il lui arrive des tas d'histoires avec l'empereur, des sorcières et tout ça. Alors, c'est un livre italien, je connaissais pas. Et c'est un classique en Italie pour la jeunesse. Mais c'est complètement loufoque, ça vaut le coup d'être lu, même si c'est un peu étrange au début.
Merci Loïc.
Donc, tous les premiers dimanches du mois, le troc livre à la Renouée.
Et c'est à partir de quelle heure ?
On commence à 10h30 et en gros, c'est plutôt des livres de 8 à 14 ans, mais voilà.
Ok. Merci beaucoup Loïc et merci à tous les enfants qui ont présenté ces livres. Alors, pour la suite de l'émission, donc, ce qu'on a prévu, c'est qu'on va passer un son sur la réunion qui s'est passée à Buja par rapport à la fameuse montagne Pelée. On aura aussi un son de Vincent Magnier qui est venu avec... tout son matériel, venir tester l'air de la Renouée, l'air qu'on respire, tous les effets de l'électromagnétisme aussi. On aura un son de Quentin aussi, ça s'appelle comment ?
Quentin, il fait une chronique en patois via un logiciel de conversation qui s'appelle Wire. Et donc, il a tout un groupe sur la région du plateau limousin qui suit ses aventures en occitan. Donc, on va se passer un petit épisode de cette chronique.
On peut commencer comme ça ?
Ouais, on peut commencer par ça. Ok. Tu finis ton...
Oui, juste pour finir, du coup, on va avoir un son aussi de Rémi sur le jardin partagé. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, un son sur la bière en chantier dans la cave, et puis si on a le temps, on retrouvera Loïc pour nous parler de la situation des emplois aidés en Creuse, si on a le temps bien sûr, et sinon on l'enregistrera et puis on le passera pour la prochaine fois. Bon,
tout de suite,
j'y vais, je te laisse la main.
La dernière chronique de Quentin, donc 1 minute 42 qui nous parle de la cuisine et l'occitan.
Petit problème technique à résoudre. Alors, on remet au début.
Adi, que la chronique du pays. Salut, c'est la chronique du pays. J'ai une question, Anne. J'ai une question aujourd'hui. Savez-vous pourquoi il y a deux manières de dire dans, donc dans D-A-N-S, en patois ? Je m'explique. Il y a quelque temps, j'avais quelque chose à donner à une personne et cette personne était occupée à trouver le bon sac poubelle à mettre dans son aspirateur. Donc cette personne n'avait pas les mains disponible et m'a dit pose-le et le cugina, pose-le dans la cuisine. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est étrange parce que et la cugina dans la cuisine. Moi, je l'aurais pas dit de cette manière. J'aurais dit dit la cugina, donc comme dans la cuisine. Et du coup, je suis allé chercher un peu dans les villages autour de Jansiou, au la montagne, à Tergina, à Loudouéné, à Mouliera. Pas beaucoup de réponses. Donc, peut-être que vous savez qu'est-ce qui fait qu'on peut dire ça dans de deux manières. Quel est l'intérêt? Parce que je me dis bien que si ça se dit de deux manières, c'est qu'il y a bien une raison. Et par ailleurs, si c'est pas inscrit ou c'est pas d'un coin ou d'un autre, peut-être un côté Corrèze, parce que là, on me l'a dit, c'était Arzayé. Et Arzayé, vous savez, ce petit village de Faux-la-Montagne, c'est pas loin de la Corrèze. Hein. Tu fais 200 mètres, t'arrives en Corrèze. Donc voilà, peut-être que vous le savez. En tout cas, ça me fait une belle question à vous poser. Pounouzournade, Ketouperané et Kedejapamao. Bonne journée, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal.
Voilà, c'était la chronique de Quentin. Et si vous avez la réponse, vous pouvez rejoindre la chronique du pays sur Wire. Donc Wire, c'est un logiciel un peu de conversation style Skype. Vous pouvez le télécharger, l'installer, vous cherchez chronique du pays et vous rejoindrez le groupe des auditeurs de cette chronique quotidienne. Voilà.
Et donc la prochaine fois, Quentin viendra nous présenter le principe de cette...
On l'attend. De cette...
Alors, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va passer un son que tu as enregistré, je crois, JB, donc dans la cave.
Ouais, alors, dans la cave, à la Renouée, il y a une brasserie associative qui s'appelle d'ailleurs l'Embrasserie Collective.
Ah oui, c'est vrai que ça a changé.
Et donc, ils sont très, très créatifs. Hein, c'est une des bières, je pense, les plus créatives du plateau. Et ils n'arrêtent pas, ils inventent toujours des nouvelles recettes, ils sont toujours à la recherche du goût parfait. Et ils n'arrêtent pas de nous surprendre au niveau des étiquettes aussi. Donc je voyais un groupe en train de coller des étiquettes au rez-de-chaussée. Je leur ai demandé ce qu'ils étaient en train de faire, et puis ils n'ont pas voulu me répondre. Ils m'ont dit va voir la cave. Voilà, donc on va y aller ensemble. Ça commence comme ça.
Mais ils veulent pas m'expliquer ce qu'ils font, ils sont un peu timides dans le micro. Ils m'ont demandé d'aller voir la cave.
La bière se fait aussi dans
le silence. C'est la radio bascule qui vient voir la bière en chantier.
Bonjour radio bascule.
Alors qu'est-ce que vous faites?
Vous penchez vers quel côté aujourd'hui? La tendance?
Tendance brasserie.
Ah oui. Voilà, pour l'instant,
les deux sont vides. Ils vont se remplir.
Donc là, c'est remplissage. C'est quelle recette?
C'est une recette pour le carnaval sauvage.
Ouais, non, celle-là, c'est la pelle.
C'est la pelle.
La fameuse. La pelle.
Alors, rappel, c'est quoi la pelle?
La pelle.
Ah. C'est quoi la recette?
C'est un outil. C'est un outil, c'est une bière.
C'est aussi un très mauvais livre.
Voilà, certains ont des références.
C'est un bon jeu de mots.
Certains ont des références. Un outil. Attends, un outil, un livre. Et puis c'est aussi...
Et alors c'est quoi la recette?
Un geste sensuel et affectif parfois. Ah. Donc ça fait un ensemble assez
qui vous cohérent. Plaît, qui vous plaît bien.
Bah ouais, c'est bon. Là, l'étiquette, où est-ce qu'elle est l'étiquette?
Et la caractéristique de la recette, pelle, c'est quoi, du coup, c'est...
Ouais, c'est les dernières, elles sont un peu piquées, tiens.
C'est pas pour la télé, c'est pour la radio, on t'a dit.
Oui, mais c'est pas grave, comme ça, il peut la décrire, ça marche aussi.
Ouais, hein. L'étiquette, elle est super.
Elle est très très belle.
Elle est moisie.
Elle est moisie, voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'on gère l'étiquetage. Là, elle est restée tout l'été à la cave. Ouais.
Mais c'est bien, on n'arrive pas spécialement à déterminer le genre des personnes qui s'embrassent, du coup c'est cool.
Tout à fait.
Voir autant,
tu vois ce que tu veux, ouais, voilà. c'est très ouvert.
Ouais, j'avais pas cette définition, peut-être moi.
Bah ouais, il y a quatre jeux de mots, mais on les a tous dit.
Donc là, c'est embouteillage de pale, et en haut, c'est étiquetage d'une nouvelle recette.
Ouais, bah, c'est la brasserie encore d'avant, quand tu voulais être.
Et c'est la
le carnaval sauvage.
C'est la bière mexicaine, c'est ça?
Avec un peu de maïs dedans. Donc ça, c'est les mexicaines. Elle n'est pas beaucoup plus mexicaine que ça. Les levures sont pas mexicaines, par exemple. J'en ai pas trouvé à acheter. Les levures mexicaines.
T'as cherché?
Ouais, ça s'achète. C'était pas simple. Je n'ai pas acheté de levures mexicaines.
C'est-à-dire qu'il y a une spécificité
Il y a marqué mexicaine... Mexicaine levure. Ça donne vraiment le goût, quoi, je pense. Mm.
Un peu de tequila aussi.
Bah après, ouais, on pourra faire des cocktails. Bon, ouais. Sur l'étiquette, c'est pas marqué quoi.
Sur l'étiquette, c'est quoi du coup? C'est un tarot, c'est un truc?
C'est ce qu'ils sont en train de faire là.
Ouais.
Les interviewer, donc.
Ouais, mais ils veulent pas, ils sont timides là-haut. Ils ont des problèmes. De rapports sociaux ou... Ils m'ont dit va voir à la cave.
Ils ont envie de coucher avec leur mère, tout ça. Ou leur père. Ouais, ça arrive. Bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Et du coup, c'est quoi l'étiquette? C'est un jeu de cartes, c'est ça?
Il y a plusieurs cartes. L'étiquette. Pour la bière mexicaine. Ouais, il y a 54 cartes de loterie mexicaine.
De loterie, d'accord.
C'est loterie, ouais, mais c'est sorti de tarot.
D'accord.
Donc on pourra peut-être trouver quelqu'un qui pourra nous faire un thème astral.
Dans la bière.
En choisissant 4 ou 5 bouteilles.
Génial.
Mais ça peut être marrant.
Ouais, ça peut être marrant.
Okay, elles sont jolies les étiquettes. Bien colorées. Faut connaître. Ouais. Ah là là. Allez, ça va faire du bruit là, il faut le brancher, sinon ça marche pas bien. Là, on commence le rinçage. Paul, toi, tu marques directement les étiquettes sur les fûts ou pas? Je marque les étiquettes. Ouais, tu les nommes les fûts là, c'est à ta place. Ou t'attends que ça sèche? Ouais, non, on peut pas, parce qu'ils sont oubliés là. Mais on va le faire en même temps qu'on étiquette. Ça marche pas, hein. Faut que j'amorce.
Bon, je vous laisse travailler. À plus tard. Voilà, donc c'était une visite de la cave de la Renouée. Et un petit entretien sur les dernières nouvelles de la bière en chantier. Et donc la bière mexicaine, ils ont appelé la Coronesse, on a pu la goûter pendant le carnaval à Faux-la-Montagne. Elle était vraiment délicieuse. Et en plus, les bouteilles sont magnifiques avec donc ces jeux de tarot là imprimés sur les étiquettes. Et donc voilà, donc beaucoup de créativité et beaucoup d'élan de fête et de joie, je dirais, qui sortent de cette cave de la Renouée. Et donc la bière en chantier, c'est une exclusivité de la Renouée, c'est-à-dire qu'on ne peut la trouver qu'à la Renouée. Elle n'est pas distribuée ailleurs pour l'instant, donc si vous voulez la goûter, il faut venir à l'épicerie de la Renouée, donc qui est ouverte le lundi de 16h30 à 19h30 et le jeudi de 17h à 19h. Voilà.
Et du coup, c'est toujours possible de faire partie de à venir faire de la bière à la Renouée.
Oui, voilà.
Alors, en contactant la Renouée, je pense que on peut trouver assez facilement les contacts.
Ouais, c'est ça. C'est un principe de brasserie collective. Donc la recette se passe et les gens apprennent entre eux à produire les brassées. Et ils sont toujours à la recherche de nouveaux partenaires, de nouvelles personnes pour les aider. Il y a plein de boulot la brasserie en ce moment. C'est en pleine croissance la Renouée, on peut dire. Hein. Ça n'arrête pas. Donc justement, dans les activités du mois d'octobre à la Renouée, nous avions proposé à Vincent Magnier de l'Autruche éclairée, qui a une activité donc de santé dans l'habitat, de venir faire un petit diagnostic sur justement la santé dans l'habitat à la Renouée, c'est-à-dire la qualité de l'air. Parce que voilà, souvent on se pose les questions de la pollution à l'extérieur, et lui, il étudie ces questions de pollution invisibles,
quelque chose qui échappe complètement à notre entendement, mais à l'intérieur des maisons. Donc il a tout un dispositif, tout plein de petits appareils qu'il est venu poser dans la maison à la Renouée pour étudier la qualité de l'air, la radioactivité, les champs électriques, les champs magnétiques, est-ce que les installations sont bien faites. Et il nous a fait une petite restitution de ça, donc samedi 28 octobre. Et on était là avec nos micros, donc on l'a interviewé. On va d'abord écouter l'entretien qu'il a accordé à Ronan. Et puis ensuite, on écoutera deux petits extraits de sa conférence où on aura l'occasion d'entendre aussi les petits bruits de ces machines. Alors, c'est parti.
Vincent Magnier, conseil Habitat Saint, l'autruche éclairée, entrepreneur dans Oxalis, la Scope Oxalis.
Donc tu viens de nous faire une conférence là cet après-midi. Est-ce que tu peux nous parler des résultats que tu as obtenus avec ton matériel ?
Oui, effectivement, j'ai quelques jours avant la conférence, là, j'étais venu poser quelques appareils de mesure pour avoir un peu une idée de différents aspects liés à la qualité de l'air intérieur, au radon et au champ électromagnétique. Donc tout ça dans les locaux de la Renouée à Gensiou. Ce qu'on peut voir avec quelques jours de recul, c'est pas encore suffisant, mais déjà on a déjà quelques petits enseignements intéressants. Si je prends la question de la qualité de l'air, de la ventilation et du confinement, par exemple, avec un appareil qui mesure le CO2 pour évaluer le confinement, on s'aperçoit que sur 3 jours de mesure, on a sur une situation de départ qui est déjà un peu élevée, qui montre déjà un confinement sensible avec 1400 ppm de CO2, donc ppm des parties par million de dioxyde de carbone, on arrive à avoir un pic, un jour de grosse activité, là, hier, où il y a eu beaucoup de monde qui est passé pour manipuler des fruits, si je crois bien, on double la quantité de ppm de CO2 pendant quelques heures, donc on passe à 2800 ppm, ce qui est très très fort pour le coup, et ce qui montre bien que le bâtiment a quand même du mal à évacuer le CO2 et donc montre un risque potentiel de confinement, vu qu'en plus c'est un lieu recevant du public et qu'il peut y avoir beaucoup de monde. Ça identifie, à confirmer par une mesure un peu plus longue, mais ça identifie un sujet de ventilation qu'il faudrait prendre en compte, quoi. A priori, il y a à voir sur des solutions de ventilation pour ce bâtiment qui aujourd'hui a été rénové. C'est assez classique, hein, on est un bâtiment ancien rénové, alors pas intégralement mais quand même pas mal rénové, avec des nouvelles huisseries, nouvelles portes, et pas spécifiquement de ventilation. Donc on a renforcé l'étanchéité du bâtiment sans renforcer la ventilation. Donc c'est pour ça que c'était déjà pour ça que la bascule m'avait fait venir en voulant voir ce sujet-là. Et donc on voit qu'il y a probablement des choses à faire, pas forcément des travaux très très importants, mais quelques petits travaux à faire. Et puis si on regarde le radon, donc là c'est pareil, 3 jours c'est pas suffisant pour avoir une idée, mais on voit déjà que sur 3 jours de mesure, on a une moyenne à 800 becquerels par mètre cube d'air, ce qui est 2 fois la réglementation dans les écoles, et qui est fixé à 400 aujourd'hui en France, et on arrive avec un pic, des pics ponctuels à 1400 becquerels, donc on voit que 800 c'est pas le maxi, ça peut monter plus, et ça on est juste en début d'automne, avec très peu de chauffage, pas de poêle allumée, de poêle de bois, donc en hiver, en situation de chauffage fort et de confinement plus grand, s'il fait froid, on peut penser que ça peut monter plus. Donc là aussi, ça confirme que pour le radon, comme pour l'aspect confinement, on a un truc à faire, quoi.
Et donc tout à l'heure, on s'est baladé avec ton matériel par rapport à l'électricité. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ?
Oui, alors c'est un autre sujet intéressant dans l'habitat qui peut ou pas poser des problèmes. Donc effectivement, j'avais fait quelques mesures avant pour voir un peu le bâtiment, comment il se comportait vis-à-vis de l'installation électrique classique, 50 Hz, et puis aussi du point de vue de ce qui suscite plus d'interrogations aujourd'hui, c'est les hautes fréquences, donc tout ce qui est nouvelles technologies, Wi-Fi, mobile, téléphone sans fil et tout ça. Donc j'avais fait les mesures, pas mal de mesures de champs basse fréquence, donc le réseau classique. Et là, on s'aperçoit qu'il y a quelques appareils qui fonctionnent pas bien, qui émettent beaucoup beaucoup trop de champs. et quand ça émet très fortement du champ, et ça peut créer en mesure ambiante un champ plus élevé que ce à quoi on est supposé avoir. Donc au lieu d'avoir 0 ou 5 volts par mètre dans l'habitat, on peut monter jusqu'à 20 ou 30 volts par mètre, ça arrive. Et là, la bascule, on l'a mesurée dans certaines pièces. Donc pas partout, hein. Globalement, l'installation quand même électrique est assez bonne. Il y a une bonne mise à la terre, il n'y a pas trop de choses qui posent problème. Il y a quelques petits points particuliers à voir sur le réseau classique. Beaucoup de lampes de bureau qui sont très de mauvaise qualité, qui émettent fortement. Et puis après, si on passe sur l'aspect Wi-Fi et champ haute fréquence, là c'est aussi beaucoup de sensibilisation sur qu'est-ce que ça fait, quelle puissance, en fonction de qui utilise quoi, qu'est-ce que ça a comme effet, et essayer de rationaliser un peu les utilisations. Et voilà, rassurer aussi, parce que le Wi-Fi, ça questionne beaucoup de gens, et finalement, par rapport à leur utilisation de leur propre mobile, ça peut être parfois finalement assez négligeable en termes d'exposition au champ. Mais mine de rien, tout se cumule, et on est aujourd'hui dans cette problématique-là, ici, en zone rurale comme en zone urbaine, c'est le cumul des utilisations, des usages, qui fait qu'à un moment donné, une telle ou telle personne peut ressentir un problème. Enfin, peut identifier un problème ou parfois ne pas l'identifier mais avoir des problèmes de santé, on a les deux cas. Voilà. Et donc c'est important d'identifier ça, de montrer, de mesurer, de sensibiliser, de donner les bonnes pratiques, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais bien voir qu'est-ce qui peut être minimisé. L'idée, c'est de réduire pour être moins exposé, quoi. C'est un peu ça l'idée, que ce soit par rapport au polluant de la qualité de l'air ou par rapport au champ électromagnétique.
Et donc, à court terme, qu'est-ce que tu proposes au CA? Qu'est-ce qui pourrait être modifié dans un premier temps?
Au CA de la bascule, donc?
Oui, au CA de la bascule, oui.
Ce sur quoi j'interviendrai en premier, donc c'est la question de la ventilation du bâtiment. Ça me semble le plus urgent et le plus facile, en plus. Donc, ça peut être de modifier des huisseries, poser des règles de ventilation, voire en fonction... faut que je rediscute avec eux sur l'importance de la fréquentation du bâtiment, le nombre les plages horaires, enfin, quel est un peu l'usage du bâtiment, que je ne perçois pas forcément complètement aujourd'hui, pour voir un peu ce que ça peut faire en termes de ventilation, les besoins, et voir après, du coup, vers quelle solution on s'oriente, vers des solutions très simples de ventilation ou des solutions un peu plus élaborées. Et en fonction de ça, on verra si les travaux se font à très court terme ou avec un peu plus de délai par rapport à des besoins de financement plus importants. Voilà. On peut imaginer pas mal de solutions. Après, c'est de savoir si ces solutions sont celles qui sont vraiment adaptées au lieu, quoi, et à son usage, quoi, en fait. C'est ça. Il y a le lieu tel qu'il est aujourd'hui et l'usage qui en est fait. Ça, c'est important de bien avoir les deux en tête. Donc moi, j'ai pour l'instant surtout vu le lieu et j'ai pas encore une bonne perception des usages.
Donc tu vas passer plus souvent à la renouée.
Ouais, on peut dire ça. Ouais, on peut dire ça. Et aussi, et puis après sur les champs électromagnétiques, ça va beaucoup être plus avec les utilisateurs, donc leur faire prendre conscience des appareils qu'ils utilisent, de ceux qui sont défectueux ou qui sont à améliorer ou à modifier leur fonctionnement ou à éloigner certains appareils de leur, notamment pour les lieux où on est posté, donc au bureau, devant l'évier, devant l'évier, il n'y avait pas de problème, mais devant une gazinière ou qui peut poser problème, choses comme ça, un four plutôt,
un four
électrique. Voilà, les lieux postés, on va être plus vigilant. C'est un peu comme la chambre à coucher, c'est les lieux où on reste longtemps. C'est là où il faut être particulièrement vigilant à l'exposition aux champs électromagnétiques. Et enfin, là, on parle surtout des champs électriques pour le coup. Voilà. Ici, donc à la renouée. Le contexte est bon, on n'est pas près d'une ligne à haute tension, on n'est pas près d'un gros transformateur, donc il semble pas qu'il y ait de pollution électromagnétique externe au bâtiment, quoi. Voilà. Okay. Ça peut arriver dans certains cas, mais c'est pas le cas ici.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et donc, suite à ça, on va passer un petit son que JB a enregistré sur le champ magnétique.
En gros, on considère que, pour vous donner des ordres de grandeur, que pour un bâtiment sain, on va chercher à avoir moins de 5 volts par mètre dans les chambres à coucher, entre 15 et 20, maximum 30 volts par mètre en ambiant dans des pièces, mais on va préférer avoir plutôt 15 volts par mètre, et en ambiant, je parle. Hein. Et voilà, et qu'au-delà de... et qu'au-delà de 50, eh ben, c'est pas terrible, quoi. Et dans une chambre où il y a vraiment plus de 10-15 volts par mètre, ça peut commencer à poser des problèmes de sommeil et des problèmes des perturbations, quoi. Et si on a du champ magnétique, alors oui, il faut aussi avoir en tête que le champ électrique est arrêté par les murs. Donc s'il y a un champ qui vient de l'extérieur, il est arrêté par les murs. Par contre, le champ magnétique n'est pas arrêté par les murs. Donc si vous avez une ligne à haute tension, enterrée ou pas enterrée d'ailleurs, parce que parfois on ne les voit pas, elles sont enterrées, qui émettent et qui passent devant ou qui sont pas très loin d'une habitation, elle peut dégager un fort champ magnétique et vous pouvez avoir du coup un champ magnétique dans le bâtiment, le même que si vous le mesurez à l'extérieur du bâtiment. Le champ magnétique, c'est assez pervers parce que ça a des effets conséquents sur la santé et du coup, c'est beaucoup plus difficile de s'en affranchir, quoi.
Ça, c'est ça que tu mesures en Tesla ?
Oui, c'est ça. Voilà.
C'est ça.
Voilà. Donc là, on peut mesurer déjà en ambiant le champ électrique, là. Donc en ambiant, je suis entre 1 et 2, donc il n'y a rien, quasiment rien. En champ magnétique, il n'y a rien non plus. Donc il faut le mesurer comme le... Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de terminale, là, les champs, Laplace, machin, les trucs comme ça, là. Non,
le 3
bon, enfin, ouais. Bon, enfin, on est censé mesurer, pour avoir la réalité du champ, de mesurer selon 3 axes, quoi. Donc on fait la somme, normalement, vectorielle de tout ça. Donc vous verrez, je vais faire des points comme ça. Mais bon, en tout cas, là, on voit qu'en ambiant, il n'y a rien. Si on va vers la cuisine... je m'en mets en champ. On va mesurer d'abord le champ électrique. Donc on peut mesurer tes appareils qui peuvent être. Donc là vous voyez, donc je vais mesurer toujours au contact pour voir la différence, pour pouvoir comparer. Après, donc là il commence à pigner, vous voyez, il n'est pas content parce qu'on a dépassé les. Et on n'est jamais au contact. Donc ce qu'il faut voir après, le champ décroît avec le carré de la distance. Donc dès que je vais être à 20 ou 30 cm. Vous voyez, là, il pigne plus. Là, je suis passé en dessous de 50 volts par mètre. Par contre, là, au contact, je suis à 330 volts par mètre. Mais si je me mets, par exemple, là, là, je suis à 1200 volts par mètre. Et là, ça m'intéresse parce que là, potentiellement, on est posté.
Et oui,
parce qu'on
oui.
est devant.
Posté devant.
Voilà. Donc là, ça peut poser problème.
Il faudra
voilà.
le débrancher voilà.
Bah, peut-être qu'il est mal branché, peut-être que la terre est pas bien branchée, qu'il y a peut-être un problème, qu'il est pas bien raccordé.
La phase déphasée aussi.
Où il est, ouais, où la phase est mal, ouais. La phase est mise à l'inverse. Où il y a, je pense pas que ce soit normal.
Il y a un schmilblick.
Voilà. Bon, la haute.
Voilà. Donc ça, c'était donc dans la cuisine de la Renouée. Un test des champs magnétiques autour de la plaque chauffante et des prises et des appareils ménagers. Et
du four, ouais.
Du four, voilà. Donc, on a un deuxième extrait où Vincent nous parle des problèmes de prise de terre.
Donc, je commence toujours par faire quand je fais un diagnostic dans une maison, c'est à mesurer la prise de terre. La prise de terre, c'est très important. C'est ce qui permet déjà, quand la prise de terre est bonne, de limiter une partie importante des champs électromagnétiques et notamment électriques dans la maison. Et il se trouve justement qu'en Limousin, du fait du granit qui a peu de minéraux, notre granit a peu de minéraux, il est peu conducteur du courant, et c'est assez fréquent que les prises de terre ne soient pas très bonnes. Quand on dit pas très bonnes, c'est-à-dire que la réglementation, quand vous faites une construction neuve, le consuel passe, il demande d'avoir moins de 100 ohms, donc là, l'ohm, c'est la résistance de la prise de terre, moins de 100 ohms. Pour un habitat sain, on va considérer qu'il faudrait avoir au maximum 50-60 ohms, donc moins. Ouais. Pas zéro, parce que zéro, on va rattraper pas mal de problèmes, tous les problèmes des voisins et tout ça. Mais disons, quand on a entre 30 et 60 ohms, c'est bien. Et souvent, en Limousin, je mesure des terres à 300, 400, 500 ohms. Donc c'est des terres qui sont très peu opérantes, qui sont très mauvaises, quoi. Voilà. Et donc ici, j'ai mesuré, j'ai fait toutes les prises de terre pour vérifier qu'elles étaient toutes bien branchées. Ah, regarde, elles sont un peu dures. Hein. Il y a les sécurités en fond, là, c'est un peu... Oh, putain, donc là, vous voyez, la terre de la bascule, elle est bien. On est à 10 ohms. Donc franchement, elle a été bien faite. Et globalement, j'étais assez satisfait de trouver l'installation électrique ici. Elle est plutôt de bonne qualité, quoi.
On est de retour sur Radio Bascule. Sans transition, on a un invité mystère. qui va nous parler de donc la problématique actuelle concernant liée aux emplois aidés. Et donc on a fait la demande à cet invité mystère de nous parler de ça.
Il y a eu une réunion. Il y a une réunion jeudi soir à Pont-Aryon.
D'accord.
Voilà, qui a été annoncée, qui a été suivie par toutes les associations qui sont concernées. Elles sont nombreuses. Et donc, ne serait-ce qu'à la Renouée, il y a déjà, je crois, 3 ou 4 personnes en tout qui sont parmi les entrepreneurs, les associations qui sont hébergées dans nos locaux, qui sont touchées par cette mesure. Voilà, donc il y avait cette réunion à Pont-Aryon qui est, je crois, la troisième réunion pour suivre cette mobilisation. Et donc, voilà... Donc les dernières nouvelles, alors ça donnait quoi cette réunion ?
Ah oui, depuis une semaine, deux semaines, trois semaines, là, suite aux annonces du gouvernement de supprimer les emplois aidés, il y a un collectif d'associations qui a lancé un peu l'initiative d'essayer de rassembler le maximum d'associations pour aller défendre l'importance des emplois aidés. Et surtout éviter un espèce de traitement au cas par cas par la préfecture qui donnerait un petit emploi aidé par-ci, un petit emploi aidé par-là, par connivence, parce que cet assaut il la juge plus important, parce que ça va créer plus fort que les autres. Donc voilà, donc le but c'est d'agir tous ensemble pour éviter d'être divisés, parce que ça semble être vraiment la stratégie du gouvernement en face. Donc voilà, il y a déjà une réunion à Feltin, une réunion à Saint-Quentin, et donc une jeudi dernier à Pont-Aryon. Vous avez aussi entendu qu'entre-temps, il y avait Emmanuel Macron qui est venu en Creuse, que des élus ont voulu aller rencontrer, se sont fait gazer par la police, que du coup, Macron les a invités à l'Élysée. Donc il y a plusieurs présidents d'intercommunalité, des élus du coin, qui sont montés à l'Élysée. Les assos leur ont demandé de parler des emplois aidés, ça a été fait. Et le retour du président, c'est de dire que il veut faire un plan de revitalisation pour la Creuse, qui sera un territoire pilote de l'innovation pour les milieux ruraux. Voilà. Donc tout ça est un peu flou. C'est le préfet qui est chargé de piloter ça et que il a déjà invité les présidents des intercommunalités à venir présenter leurs demandes, leur vision de à quoi pourrait ressembler ce plan. Voilà. Donc de leur côté, là, le collectif d'associations, lui, il est sur deux positions claires. La première, c'est de dire que il faut absolument que les emplois aidés perdurent, parce que pour la Creuse, déjà juste au niveau du nombre d'emplois, c'est catastrophique, ce serait un énorme plan social, plusieurs centaines d'emplois sont concernés, et pas que dans les associations, aussi dans les mairies, dans les écoles, et tout le secteur médico-social qui embauche énormément d'emplois aidés. Voilà, donc juste déjà de pouvoir conserver ces emplois qui ne peuvent pas perdurer sans ça, à court terme en tout cas. Et deuxièmement, de dire qu'en Creuse, c'est comme un territoire spécifique où les associations ont un très grand rôle, et notamment beaucoup d'entre elles ont un rôle de service public, service semi-public, et que sans elles, c'est énormément de services aux habitants qui vont disparaître, voilà. Quand on pense au secteur médico-social, aux aides à la personne, c'est énorme. Mais aussi tous les clubs de sport, toutes les petites associations qui font vivre les villages peuvent être menacées. Ce qui s'est dit jeudi dernier à Pont-Aryon, donc c'était de demander un rendez-vous au préfet, d'une part, pour lui demander de que les associations soient reçues parce qu'elles ont des choses à dire par rapport à quoi pourrait ressembler ce plan de revitalisation. Voilà, donc il y a le projet de faire un texte commun, il y a un document en ligne, un pad qui va être ouvert pour que chacun puisse participer. Et l'autre idée, c'était que chacun aille voir aussi, interpelle son président d'intercommunalité pour lui dire « on a des choses à dire, on veut participer à ce projet de plan-là, il ne sera pas sans les habitants ». Voilà. Donc il y a une prochaine réunion jeudi 24 novembre, toujours à Pont-Aryon, à la mairie, pour écrire ce texte, préparer le rendez-vous au préfet. Et une troisième action qui va être faite, c'est d'enregistrer des spots radio et des spots vidéo. Voilà. Donc ça va être fait grâce aux moyens techniques et aux compétences de Radio Vassivière et Télé Vache. Donc bientôt, ces deux associations médias vont proposer une date pour enregistrer des spots radio et vidéo qui pourront être diffusés sur Internet. Je vous laisse juste une adresse email si vous cherchez à contacter ce collectif. Parce que plus on est nombreux, plus il y a d'idées et plus on est fort. Voilà. Et donc c'est mobilisation.cae23 mobilisation.ilico.org. mobilisation.ce23@ilico.org.
Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a aussi l'idée d'une journée noire des associations. Est-ce qu'il y a une date ou quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose à être arrêté pendant la réunion?
Alors ça, c'est pas très clair pour moi. Je suis pas sûr que l'idée ouais, d'une journée noire ou d'une grève des associations pour montrer qu'est-ce qui se passerait si plus d'associations a été retenue. Je pense que ça va plutôt passer par les spots où cette idée-là va être déclinée sous forme vidéo et radio pour montrer à quoi ça ressemblerait la Creuse sans les associations.
Merci beaucoup.
Alors notre invité mystère avait un petit mal de gorge, effectivement. Voilà. Donc, suite à ça, merci, invité mystère. Ce que je vous propose, c'est qu'il nous reste un petit quart d'heure. Et donc, moi, je suis allé à la réunion concernant le fameux montage de l'usine Abuja, donc le projet d'usine de pellets torréfiés. J'ai enregistré lors de cette réunion voilà, la présentation donc, de ce fameux projet. Et donc, voilà, je laisse l'enregistrement vous expliquer ce qui s'est passé.
La maire, madame Guillou, nous a remis un document de 4 pages sur la création d'une usine à pellets. Alors, finalement... On n'avait pas d'idée sur la question et les gens qui étaient là avaient l'air plutôt pour parce que ça voulait dire des emplois, l'espoir d'installation de familles nouvelles, etc. Donc de dynamiser un peu la ville et la région. Et puis dans le 4 pages qui nous était présenté, l'entreprise se présentait comme une entreprise pionnière dans l'énergie renouvelable. Alors, comme on n'avait pas trop d'idées, on a contacté la Somival qui faisait cette étude pour nous présenter le projet. Alors ils sont venus, ils nous ont expliqué et finalement ça a suscité chez nous beaucoup plus d'inquiétudes que du reste. Et du coup on est allé voir des sites de production qui produisent des usines, je dirais, assez semblables. On a lu les études d'impact qui ont été publiées dans les enquêtes d'utilité publique et en fait on s'est très vite rendu compte qu'il y avait un grand delta entre les engagements des industriels et la réalité de l'exploitation. Voilà.
Vous avez tous, je pense, entendu parler de ces granulés blancs que des industriels vous proposent à faire consommer dans des poêles pour des particuliers. Vous avez tous déjà aperçu peut-être ces petits granulés. L'entreprise qui se présente ici, Abuja Viand, est d'un type nouveau, puisqu'elle va ajouter à ce processus de granulation, elle va lui ajouter un processus de torréfaction. Pardon. Alors, pourquoi cette torréfaction? Parce que le granulé blanc est sensible à l'humidité et qu'il a un indice calorifique assez faible. Et donc l'entreprise, elle, annonce cette torréfaction de façon à augmenter l'indice calorifique de ce produit et surtout à faire baisser l'humidité et à rendre ce produit plus facilement consommable par les principaux débouchés de ce produit qui sont déjà, puisque les pellets actuellement sont importés des États-Unis, qui sont les centrales EDF et les centrales de production chaleur urbaine, les CPCU.
Et moi, une chose qui me semble très importante, qui me semble même essentielle, et peut-être même le cœur du problème, c'est déjà été un peu soulevé tout à l'heure, c'est le sol. C'est-à-dire que ce que nous propose CIBV, c'est de prélever gratuitement, ou en tout cas, même en échange d'argent, les andins qui restent, par exemple, après les coupes rases, ou alors, comme on dit, des taillis issus de la déprise agricole, c'est-à-dire des terrains qui sont partis en accrue, qui sont partis en friche et qu'ils iraient couper, et qui prélève pour donc le broyer, le mettre en petit pelé et le faire partir par train. Mais ces éléments-là, et en particulier si on parle des andins par exemple, quand on voit ce que c'est qu'une coupe à blanc, quand on voit même une coupe à blanc qui n'est pas replantée directement par exemple, ce qui reprend les endroits, moi je l'ai entendu plein de personnes différentes, là où les arbres repartent spontanément s'il n'y a pas d'entretien, c'est au milieu des andins. C'est là qu'il y a la biomasse, c'est là qu'il y a la richesse, Ce qui reste entre les engins, c'est du sable. C'est rien. Et donc ça implique, si on veut replanter, de faire des amendements, ce qui se fait effectivement d'ailleurs en monoculture forestière. Donc la question du sol, moi le sentiment que j'ai vraiment, c'est ça, qu'il s'agit, on nous parle de brader nos sols, on nous parle de les acheter à des prix qui sont, si on voit la concurrence dans les Landes, quand ils achètent des sols des Andins, c'est 1 à 2 euros la tonne. C'est entre 10 et 100 fois moins que ce qu'ils s'achètent en bois d'avoine. Donc c'est une question qui me semble très importante à soulever, surtout si on parle d'un prélèvement de l'ordre de 100 000 à 300 000 tonnes. Et je reste sur la fourchette, parce qu'on ne sait pas s'il s'agit que de 100 000, que, entre guillemets, puisque ce serait pour les 45 000 tonnes de pelés torréfiés sur du Javian, ou si on parle de 200 000 supplémentaires, qui seraient aussi prélevés par une éventuelle unité de production biomasse, qui à un moment donné devait s'installer dans la zone de l'Empereur, peut-être à un moment on sera ailleurs, mais qui fait encore monter le... voilà. Mais bon, imaginons, c'est 100 000 tonnes de biomasse. Donc c'est des arbres, des souches, etc., des branches. Qu'est-ce que ça implique? Monsieur Le Guen disait, ça correspond au rémanent, donc ce qu'on laisse dans les Andins, de à peu près 500 hectares de coupe rase. Il disait, or, il y a 1000 hectares de coupe rase sur le plateau de 1000 vaches, sur le territoire du PNR. Donc en fait, on n'en prendrait que la moitié. Moi, toutes les discussions que j'ai pu avoir récemment avec des forestiers, et certains, encore une fois, sont là dans la salle ce soir, il y a quelque chose qui bouge en ce moment dans le milieu forestier. Il y a des gens qui sont en train de changer de position par rapport à des pratiques pas très intéressantes sur le plan écologique qui ont lieu pendant des années et qui dégradent effectivement l'environnement et ça bouge. Et la coupe rase, elle commence à avoir vraiment mauvaise presse. Donc en fait, quand on nous dit on va prendre les rémanents de 500 hectares de coupe rase, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des coupe rase pour continuer à avoir ces rémanents. On s'appuie sur un existant qui est très problématique, à savoir le mode d'exploitation dominant en coupe rase, pour dire qu'il faut le maintenir et peut-être même en faire encore plus si on parle de faire 300 000 tonnes de prélèvement. Qui correspondrait dans ce cas à 1500 hectares, je ne sais pas si vous suivez le calcul, de coupe rase. L'unité de torréfaction, selon M. Le Guen encore, d'après le rendez-vous qu'ils avaient eu, c'est 2 mètres cubes par heure dans la petite rivière qui passe à côté. 2 mètres cubes par heure, c'est pas rien. Surtout quand on voit ce que c'est l'état de nos rivières en été, comment on va trouver après 2 mètres cubes par heure? Parce qu'il faut refroidir en fait. Quand on veut limiter la montée en température de l'unité de torréfaction, il faut forcément avoir un système de refroidissement qui provoque le genre de panache de fumée qu'on voyait tout à l'heure, ça fait beaucoup de fumée, d'eau qui s'évapore pour refroidir. Ça, il faudra le prévenir dans la rivière. Alors, ça, c'est des questions qui sont ouvertes et pour lesquelles, pour l'instant, on n'a pas trouvé de réponse. Peut-être parce qu'on n'a pas le dossier, peut-être parce que certaines personnes ne connaissent même pas les réponses à ces questions. Mais c'est aussi une vraie question, savoir comment cette eau va être trouvée et quelles conséquences ça a, sachant qu'il y a des histoires de bassins versants, il y a des histoires de vie aquatique, il y a des histoires de faune autour, de faune de poissons ou d'animaux qui pourraient être tout à fait perturbés par des prélèvements comme cela. Et donc, encore deux mots sur la faune aussi, c'est qu'il y a pas mal d'animaux, et notamment des oiseaux, qui sont protégés dans l'environnement immédiat de cet espace, et qui risquent de ne pas très bien supporter, parce que certains sont particulièrement sensibles à la présence humaine, aux activités humaines, bruyantes, etc. Et donc il y a à se poser aussi la question de savoir si juste on envoie en gros une usine extrêmement bruyante et nauséabonde au milieu d'un espace qui pour l'instant accueille plutôt des espèces sauvages protégées, ou si on ne veut pas faire ça. Le tas de pneus. Donc c'est effectivement très beau à dire comme ça, on va dépolluer l'usine à pneus. La réponse en termes de dépollution qui était donnée par M. Le Guen aux questions, c'est en quoi consiste la dépollution? Mais en fait, en admettant que l'usine est extrêmement bruyante, il s'agit d'en faire un tas. Les 5000 tonnes de pneus qui sont actuellement sur l'ancienne usine de recyclage, en faire un tas de pneus pour faire un mur anti-bruit. Et quand il aura été répondu qu'un mur anti-bruit, ce n'était pas vraiment de la dépollution, surtout avoir un gros tas de pneus, il a dit non, mais si vous voulez, on pourra terrasser et puis mettre des plantes dessus. Enfin, terrasser, mettre de la terre et puis mettre des plantes. Donc ça, c'est une dépollution, je ne suis pas sûr que ce soit une dépollution. Et alors là où j'ai un doute, je vous le dis, mais on verra, ça se trouve je me trompe, Damien nous le dira, c'est que, d'après ce que j'ai compris, la torréfaction des pelés prévoit pas forcément d'utiliser donc, que du bois, que ce soit des souches et rémanents ou que ce soit des arbres, parce que les arbres sur pied, ils s'en prélèvent aussi dans des projets comme celui-ci, sur pied entier. Il y a aussi, donc, ce qu'on parlait tout à l'heure, les déchets de déchetterie de type bois, et on a droit, jusqu'à 5% d'hydrocarbures. Donc 5% de carburant, c'est bien, peut-être bien que les pneus de l'usine à pneus finiront dans les pelés pour être mis dans les poils à la fin. Pourquoi pas? On ne sait pas. Le doute est entier.
Ce type d'usine, les usines de production de granulés, pas forcément torréfiés d'ailleurs, ont un gros souci actuellement, et le site de Zilka est souvent en panne pour cette cause, ce sont les départs de feu.
des barres de feu qui sont liées à la fois à l'autocombustion des granulés et à la présence de poussière et de masse de bois extrêmement importante. Je pense que en y rajoutant une tour de torréfaction avec de l'huile à 300 degrés, on va un petit peu augmenter les risques d'incendie par rapport à ce qui existe et qu'on connaît, et que des riverains de Saint-Germain préalablement nous ont confirmé, il y a très souvent des départs de feu. Donc les pompiers chargés de l'extinction des feux vont avoir un problème très, très facile à régler, je pense. Mais par contre, les eaux d'extinction, on va poser, nous, la question de savoir où vont aller ces eaux d'extinction. Parce que le site actuel est placé sur un bassin versant qui alimente une rivière, qui alimente d'ailleurs le bassin de la Dordogne via la Vézère. Et donc, on pose la question, nous, de la pollution gravissime en cas d'incendie. Et c'est vrai que quand on voit l'attitude des autorités, par exemple, hier soir, dans le feu de qui s'est déclaré dans une usine d'hydrocarbures, si j'ai bien compris, quand on voit l'attitude irresponsable des autorités, on a de très lourdes questions. Je passe la parole à Catherine.
Juste, j'ai encore oublié quelque chose. En fait, je me doutais bien que j'oubliais par rapport à Pierre-Henri Gaudriot, donc le directeur de l'entreprise qui propose ce projet. C'est aussi quelqu'un qui a des antécédents dans la région, parce que en plus donc de faire du conseil sur des possibilités enfin, sur l'environnement auprès des collectivités. Ils ont aussi des projets. Alors, il a aussi des projets à part une autre entreprise ou eu des projets d'enfouissement minier sur à mille vaches. D'uranium.
Un Chavanac, apparemment. Non.
Donc, c'était donc un sujet sur l'usine appelée de Bujat. On arrive à la fin de l'émission, donc je vais rapidement faire un petit agenda des activités à la Renouée. Alors, samedi prochain et dimanche prochain, on a un week-end jeu de société à la Renouée. Donc vous êtes tous invités, quelle que soit votre passion du jeu. Donc ça sera toute la journée samedi et toute la journée dimanche.
Et voilà. Toute la nuit aussi ou pas?
Toute la nuit, on verra. Enfin, il y a peut-être moyen d'être hébergé. Il y a un contact pour ça. Je vous invite à aller voir sur le site de la Renouée. Donc Renouée, renouee.millevaches.net. Alors également, on a une formation à destination des producteurs. Une formation au logiciel Caget, donc qui concerne tous les gens qui sont producteurs dans le coin et qui vivent essentiellement non pas des marchés mais plutôt des commandes. Cette formation donc au logiciel Caget, le logiciel du circuit court qui peut vraiment les aider à optimiser leurs relations et la manière de gérer leur vente. Voilà, et on a aussi une annonce à faire passer, donc une annonce qui vient de Marion, qui fait des recettes à base de miel, Marion du Jardin des Abeilles, que vous pouvez trouver à l'épicerie de la Renouée. Elle est à la recherche d'un local de 20 à 25 mètres carrés, avec un accès à l'eau, situé entre Gensoux et Folamontagne, pour y faire une miellerie. Voilà, alors si vous pensez que vous pouvez l'aider, son numéro de téléphone est le 06... 45 42 13 60. Je répète, le 06 45 42 13 60 pour une miellerie de 20 à 25 mètres carrés située entre le Faux et Gensoux. Voilà, c'est la fin de notre émission.
Donc, Radio Bascule, c'est terminé pour aujourd'hui. Néanmoins, on revient le mois prochain. Ouais. Début du mois prochain, donc ça va être le 3 décembre.
Le 3 décembre, ainsi que les petits déjeuners et les rencontres bibliothèques.
De livres. Voilà. Donc, merci aux éditeurs, aux auditrices. Merci à Radio Vassivière. Et puis, voilà. À la prochaine. Ciao.